Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, c'est la dernière émission de la semaine, alors on va bien en profiter avec vous, bien sûr, sur RMC Story, également Canal 23 de la TNT, et au 3216, on attend tous vos avis, toutes vos réactions, c'est toujours un plaisir de vous entendre et de vous lire également sur l'application RMC, et celui qui lit tous vos messages, eh bien c'est Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Perico Légas sera avec nous dans un instant, mais enfin il est dans les embouteillages, donc il ne devrait pas tarder. Thierry Moreau, bah lui il est là tous les jours, donc évidemment on ne peut pas le rater, ça va Thierry?
Je viens tôt pour être sûr de pas être ennuyé par les embouteillages.
Bah c'est le bon sens, voilà, il le sait qu'il habite à Paris, Perico Légas, c'est que c'est une catastrophe. Et bah à chaque fois c'est pareil, c'est quand même dingue.
C'était mieux avant.
Aujourd'hui je suis heureuse et j'ai le sourire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est le grand retour de notre sociologue préféré, professeur à HEC et à Sciences Po, Julien Damon. Ça va Julien ?
Pleine forme et ravi d'être ici.
Mais vous m'avez manqué Julien ?
Bah oui, moi, vous aussi, vous m'avez tous manqué.
Et bah écoutez, nous
j'ai
on est ravis.
J'ai pleuré pendant 3 mois là.
Ah, on est ravis de vous revoir. Julien, au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, Sandrine Rousseau qui défend un droit à la paresse et des pauses dans la vie professionnelle. D'accord ou pas d'accord avec elle, on vous attend au 32-16 à 13h. La hausse des violences dans les transports en commun, 4% par rapport à 2020. Avez-vous peur désormais quand vous prenez le métro, le bus ou le tram? 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 13h50, nouvelle rubrique dans Estelle Midi, rubrique du vendredi, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait pour nous le tour de la presse quotidienne régionale et il y a des perles, je peux vous l'annoncer. À 14h, juste avant le week-end, on parlera de couple et d'amour avec cette question. L'amour à distance peut-il durer? Là encore, on attend vos témoignages au 32-16. Dites-nous si ça vous a réussi ou pas, tout simplement, ça peut aussi ne pas marcher. Et puis, pour la dernière fois de la semaine, on vous fera gagner des cadeaux Apple.
Oui, c'est comme ça dans toutes les émissions d'RMC. Nous continuons le jeu du coffre. C'est le dernier jour aujourd'hui, effectivement, vers 14h40. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne et gagnera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à partir de ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez ce cadeau, soit vous y renoncez. Mais à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou l'iPhone 14 Pro Max, le top du top de l'iPhone. Pour jouer, c'est simple. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec la petite phrase du jour. C'est celle de Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie Les Verts, a pris le contre-pied de Fabien Roussel qui prenait la gauche du travail plutôt que celle des allocs. Sandrine Rousseau qui, elle, revendique un droit à la paresse. Elle défend également le fait de pouvoir faire des pauses dans sa vie professionnelle et cette prise de position, Rémi, a créé la polémique.
Exactement, et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Le porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Benjamin Haddad, a été l'un des premiers à réagir sur son compte Twitter, il dénonce une nouvelle perle de Sandrine Rousseau lorsqu'elle lie le droit à la paresse et à celui de toucher les allocations chômage et de juger, outre que c'était extrêmement insultant pour les chômeurs, je ne suis pas sûr que la paresse doive être subventionnée par la collectivité. Face à la féministe Sandrine Rousseau, la porte-parole Renaissance, nouvelle appellation de La République En Marche, Prisca Thévenot, défend elle l'importance du travail pour les femmes. Le travail est un essentiel pour tous et notamment pour les femmes, dit-elle, celles qui se sont battues pour avoir le droit de travailler et ainsi gagner en liberté et en indépendance. Tollé également à l'extrême droite. Parmi les réactions, celle de Marion Maréchal, la vice-présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui estime que dans le monde merveilleux de Sandrine Rousseau, on oublie que le droit à la paresse est in fine financé par ceux qui travaillent. En revanche, le droit à la bêtise est définitivement une valeur de gauche.
Alors, d'accord ou pas d'accord avec Sandrine Rousseau, est-ce qu'on a droit à la paresse? Je vais commencer avec vous, Julien Damon.
Dans l'absolu, oui, nous pouvons être paresseux si nous le souhaitons, mais elle rapproche ça du monde du travail, si si on est indépendant, ben on peut être paresseux, mais on n'a pas sa rémunération. Si on est salarié, ben c'est extrêmement problématique. Je trouve que intellectuellement, c'est un clin d'œil qu'elle fait au marxisme, parce que le droit à la paresse est le titre d'un ouvrage de Monsieur Paul Lafargue, qui est le gendre de Marx. Donc elle fait un petit clin d'œil comme ça, un télo du côté de la gauche, et elle se plante parce que la gauche n'est pas en faveur de cette paresse revendiquée. Donc en un mot, on peut être tous paresseux si on le souhaite, mais on ne doit pas dépendre des autres pour l'être. Et dans ce qu'elle évoque...
Donc on ne doit pas être rémunéré en disant pour sa paresse, c'est ça que vous dites?
Ben oui, on ne doit pas être rémunéré si on ne fout rien, c'est aussi simple et aussi bête que ça, et c'est un peu ce qu'elle semble évoquer.
Mais non, parce que la paresse, elle parle des pauses dans la vie professionnelle, donc oui, c'est aussi changer de métier et prendre un petit temps pour soi entre deux.
Oui,
quoi.
Mais si c'est un petit temps pour soi, on le fait tout seul comme un grand, on ne doit pas être rémunéré pour cette période.
Vous avez cotisé pour ça?
Mais on n'a pas cotisé, jamais personne. Ah, si on a mis côté par prévoyance pour pouvoir se permettre ce temps.
Vous cotisez pour le chômage. Si à un moment, après 10 ans dans une boîte, vous avez envie de changer de boîte, et vous prenez 3 mois pour vous.
Et vous le faites comme un grand, il n'y a aucune raison que moi je paye pour ça. Non, le chômage, on cotise pour pouvoir être aidé pendant les périodes où on cherche à trouver un emploi. Oui. Ce n'est pas une période de paresse, ce n'est pas une période d'oisiveté, ce n'est pas une période de loisir. C'est une grande erreur que de penser ça. Constitutionnellement, vous avez un droit au travail et vous avez un devoir de travail. Même. Non, bon, on peut faire ce choix, mais il ne doit pas conduire.
Je ne crois pas que le devoir de travailler sur l'institution.
Bien sûr que si, vous avez le devoir, bien sûr, c'est tout à fait étonnant parce qu'on n'en a pas l'impression, mais dans le bloc de constitutionnalité, vous avez à la fois le droit d'être aidé au moment où vous rencontrez des difficultés, mais vous avez le devoir d'exercer une activité. Donc moi, je trouve que c'est un très mauvais signe que donne Mme Rousseau, comme souvent.
Alors Thierry Moreau, c'est vrai que c'est un peu la reine du buzz sans Sandrine Rousseau, mais elle touche quand même là où ça fait mal. C'est vrai. Non mais regardez, en ce moment on parle beaucoup de des jeunes qui veulent être flexibles.
Oui, mais elle
appuie
pas là où ça fait mal. Elle a compris aujourd'hui que dans la communication politique, une bonne punchline, ça fait un bon tweet derrière et ça fait une bonne polémique. Opposer la paresse et le travail est une stupidité. D'abord parce que étymologiquement, la valeur travail, c'est une notion d'économie qui dit que le travail est créateur de richesse et apporte de la valeur à un bien. C'est une notion économique qui a été développée par Adam Smith, après reprise par Ricardo, puis après par Karl Marx, comme tu l'as dit. Donc ça n'a rien à voir avec cette espèce de valeur travail qui est une sorte de totem idéologique qui, aujourd'hui, on voudrait opposer cette valeur travail à ceux qui disent si on la vénère pas, ça veut dire qu'on est un feignant et qu'on est paresseux. Ça n'a évidemment rien à voir. En revanche, comme vous l'avez dit, très justement Estelle, il y a une partie de la population aujourd'hui, notamment les jeunes, qui ne place plus aujourd'hui l'épanouissement personnel dans l'accomplissement professionnels et qui se disent l'épanouissement personnel, c'est le travail, mais c'est aussi autre chose. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont feignants ou paresseux, ça ne veut pas dire ça. Et la deuxième chose, il faut quand même côtoyer ATD Quart-Monde, toutes ces associations, pour voir que les gens qui sont aujourd'hui sans travail, ils cherchent à en avoir. Parce que le travail, c'est quoi? C'est d'abord du salaire, évidemment, c'est du lien social, c'est de la vie en collectivité, ça permet de s'épanouir. Donc aujourd'hui, les gens sans travail ne sont pas des paresseux, c'est des gens qui veulent travailler.
Oui, sauf que là où avant, en fait, on aurait beaucoup hésité, à démissionner et à prendre du temps entre deux boulots, c'est-à-dire que on aurait attendu d'avoir un boulot dans une autre boîte avant de démissionner de sa boîte. Aujourd'hui, vous avez des gens et ils font ce choix. Et on a eu beaucoup d'auditeurs d'RMC qui nous ont appelés pour nous dire ça, qui se disent je quitte une boîte, voilà, je trouve un accord avec mon employeur et derrière, je prends 6 mois pour moi, pour me poser, pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire, etc. Même Emmanuel Macron a fustigé. Justement, les gens qui faisaient ça, il y a quelques semaines. Donc, ça existe. Et en fait, Sandrine Rousseau, elle dit on a le droit à se poser. Alors, c'est ça qu'elle dit.
Oui, mais sauf qu'elle mélange tout. Elle mélange, comme l'a dit Julien, le fait qu'une indemnité chômage, elle est là pour maintenir un niveau de vie pendant qu'on n'a pas de travail en attendant de retrouver
un
autre.
Vous avez une indemnité chômage quand vous avez cotisé.
Excusez-moi, je voudrais terminer. Et on peut prendre un petit peu de temps pour se dire est-ce que j'ai envie de reprendre un travail dans le même secteur ou dans un autre secteur? Moi, ça me choque pas. Et elle confond par ailleurs le fait que on peut choisir, par exemple, de faire des années sabbatiques, ce qui existe depuis des années. Il y a des années que ça existe, les années sabbatiques. Si vous avez envie de prendre une année sabbatique pour prendre votre temps, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Donc elle confond tout dans un espèce de boubiboulga où elle veut opposer paresse et travail. Je rappellerai quand même juste que dans l'international que doit vénérer Madame Rousseau, il est dit ouvriers paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisif ira loger ailleurs. Donc, le travail est au cœur même de l'international que revendique Madame Rousseau.
On peut le chanter?
Non. On est avec Bertrand qui nous appelle de Saint-Léonard de Noblat dans la Haute-Vienne. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bertrand, vous êtes chef d'entreprise dans l'épicerie fine. Oui. J'imagine que ce qu'a dit Sandrine Rousseau a dû vous faire bondir.
Alors moi ça fait un petit peu bondir parce que alors moi actuellement je fais 13h12, 13h par jour.
Ah oui, c'est beaucoup.
Voilà, l'État...
Paresseux.
Oui, c'est ça, mais oui. C'est exactement ça. L'État me prend 47% du résultat net parce que je suis en entreprise individuelle.
Ah, bah oui.
Et ça me rend un peu fou d'entendre ça. J'ai eu le cas, moi, avec une salariée pour laquelle j'ai fait un CDI. Et depuis le CDI, il y a eu des arrêts multiples. Alors, peut-être qu'il y a ses raisons, sûrement. Et en fait, maintenant, elle veut changer de travail. Donc, changer de travail, ça veut dire que, moi, je lui ai dit, si tu veux partir, tu t'en vas. Je vois pas l'inconvénient. Sauf que, ben, en fait, pour toucher quelque chose, parce que maintenant, les gens ne veulent plus partir.
Rupture conventionnelle. Faut que vous la voudriez.
Donc, rupture conventionnelle, ben, j'ai pas voulu. Je l'ai pas accepté. Donc, on est passé par un autre système, qui est plutôt sur la maladie. Et maintenant, c'est à moi de licencier la personne. Donc, c'est moi.
Et c'est compliqué quand la personne est malade, en plus.
Alors, là, non, parce que du coup, il y a eu.
Du coup, elle est plus malade, là.
Oui.
Parce qu'elle a son licenciement.
Alors, il y a eu, elle est inapte au travail maintenant, et c'est à moi de licencier cette personne. Après, du coup, je cherche des gens pour travailler. J'ai mis des annonces pendant 2 mois devant le magasin. On est une petite ville de 5-6 000 habitants.
Ouais.
J'ai eu 2 personnes qui sont venues pour travailler. 2. Alors qu'ils veulent choisir leur salaire, ils veulent choisir leur temps de travail, leur jour de congé. Nous, on peut pas, en fait. On peut pas. Nous, on a des entreprises à faire tourner, on a des charges à payer. Qu'on soit en vacances, qu'on soit pas en vacances, il faut toujours payer. À un moment donné, non, il faut arrêter. Il faut qu'on aide les gens qui sont dans le besoin sur par exemple, une société qui va mal, qui ferme. Ces gens-là sont au chômage. On les aide le temps de retrouver quelque chose. Il faut qu'on arrête de donner de l'argent, jeter de l'argent par les fenêtres, même.
Bah merci beaucoup Bertrand, voilà, qui nous appelle de la Haute-Vienne. Mais c'est intéressant ce que dit Bertrand. Voilà, mais ça rejoint ce qu'on disait aussi, c'est qu'aujourd'hui vous avez aussi plein de gens qui sont d'accord avec Sandrine Rousseau parce que justement ils estiment que c'est aussi un droit pour eux de pouvoir s'opposer. Mais ça existe.
Ne niez pas que Sandrine Rousseau, c'est une posture politique. Elle s'oppose à Fabien Roussel qui a expliqué que la gauche, ça devait être une valeur, que le travail pouvait être une valeur de gauche. Je rappellerai juste qu'en 2011, Jean-Luc Mélenchon, dans une émission sur TF1 qui s'appelait Parole de politique, disait exactement la même chose en disant le RSA c'est bien mais c'est des allocs, nous ce qu'on veut c'est un monde du travail pour que les gens ils aient du boulot. Donc il dit exactement la même chose que ce que dit Fabien Roussel, il disait à l'époque la même chose que ce que disait Fabien Roussel aujourd'hui. C'est une lutte au sein de la NUPES entre Sandrine Rousseau qui tient une ligne très particulière et puis Fabien Roussel qui en tient une autre. C'est une posture politique et donc opposer paresse et travail c'est une stupidité.
Non mais après ce qu'elle veut faire c'est quoi? C'est arriver aux 32 heures, d'ailleurs elle en a parlé également. Est-ce que ça, à votre avis, on va y venir, Julien Damon, finalement?
Alors, puisqu'on a cité beaucoup d'économistes, un très célèbre, c'est Monsieur Keynes, qui, il y a presque un siècle, a écrit une lettre à ses petits-enfants et qui expliquait que, dans un siècle, c'est-à-dire presque aujourd'hui, nous travaillerions 15 heures par semaine. Et dans une certaine mesure, ça n'est pas faux si on regarde le nombre d'heures que nous travaillons rapporté à notre espérance de vie. Donc, tendanciellement, il y a une baisse, en effet, du nombre d'heures travaillées chaque semaine, en moyenne, sur le temps d'une existence. Ceci dit, je pense qu'il faut d'abord mettre les choses clairement en place. En effet, il y a un droit des salariés à cesser leur activité professionnelle et même à retrouver leur contrat de travail après avoir cessé leur activité professionnelle pendant une année sabbatique. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas d'indemnisation. Et deuxième chose, si vous avez suffisamment cotisé et que vous vous trouvez au chômage, vous pouvez avoir une indemnisation. Mais cette indemnité, elle n'est pas faite pour que vous glandiez. Au contraire, elle est faite pour maintenir votre niveau de vie, en tout ou partie, enfin, surtout en partie, et elle est faite pour que vous recherchiez un emploi.
Donc, si tu recherches pas un emploi 24h sur 24, tu vois
non,
ce que je veux dire.
Non, mais tu le fais pendant le temps.
Tu travailles pas 24h sur 24.
Tu travailles pas non plus 24h sur 24.
Tu recherches pas si on prend, le temps de travail.
Non, mais je pense que c'est quand même transformé complètement.
Parce que
le système d'assurance chômage, ne doit pas être un système d'assurance glandouille pour faire, je sais pas si ça fait un buzz.
Tout dépend si t'as cotisé ou pas.
Si t'as cotisé, tu as cotisé. Pour pouvoir, en cas d'être subvenu du risque chômage,
d'avoir ce filet de sécurité.
C'est un filet de sécurité.
Absolument.
Et ce filet de sécurité, il est financé par tout le monde. Moi, je ne cotise pas pour que les gens me disent pendant X mois, je veux réfléchir sur le sens de la vie.
On est avec Olivier qui nous appelle de Tonnerre dans Lyon.
Oui,
bonjour Olivier.
Bonjour à tout votre plateau.
Bonjour. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance, Tonnerre. Mon arrière-grand-père était maire de Tenlay juste à côté.
J'habite à Tenlay.
La Bretagne.
Ah bah voilà. Et mon arrière-grand-père était maire de la ville.
Le choix des auditeurs me semble tout à fait partial. Je ne sais pas pourquoi. Mais...
Tonnerre de Brest.
Olivier, est-ce qu'on a le droit à la paresse ou pas du tout pour vous?
Eh bien, moi, je voudrais développer un point qui n'a pas encore été développé dans les propos de Sandrine Rousseau, c'est la fameuse semaine de 4 jours. Moi, je dis ça parce que j'ai instauré ça dans ma structure. Et en fait, elle veut dégager du temps. Eh bien, c'est un bon point et un bon plan pour les salariés. Les faire travailler 4 jours, bien sûr, sur 30, pas 32 heures, mais 35 heures, parce que bientôt, comme ça a été dit, on va travailler 15 heures par semaine. Bon, moi, je veux bien, mais bon, il y a un moment, si on veut avoir un certain train de vie, il y a un moment, il faut quand même de l'argent. Donc, moi, je pense que 4 jours, c'est ce que j'ai instauré ça. J'ai instauré ça, donc c'est très bien. Ça convient très bien à mes collaborateurs.
Et à vous aussi ?
À moi aussi, parce que ça me dégage du temps pour justement tout ce qui est devis, tout ce qui est prise de contact avec la clientèle. Enfin, voilà.
Donc, vous bossez quand même le cinquième jour ?
Ah bah bien sûr. Le cinquième et voire des voies le cinq et demi et le sixième.
Oui, donc vous n'êtes pas tout à fait aux quatre jours, quoi.
En tant qu'artisan, de toute façon, on est quasiment tout le temps le pont. Mais je veux dire par là, c'est que cette histoire de feignanterie, parce qu'il y a un moment, faut appeler les mots comme elles sont. Admettons que ça. Allez, on se projette dans un monde de Sandrine Rousseau. Donc c'est passé, tout est bien.
Je sais pas si j'ai envie de me projeter.
Voilà. Non mais voilà. Admettons. On prend juste. On fait de la science-fiction pendant 30 secondes. Mmh. Allez, on se dit tous, allez, on fait tous de la paresse pendant un an. Mais au bout de 6 mois, qu'est-ce que le pays devient, quoi ?
Bah, on peut pas.
Il faut
faire de la paresse à tour de rôle. Ça ne marche pas.
Il y a les données, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de tourner autour du pont, quoi. C'est du buzz et du buzz et du buzz, quoi.
Exactement.
Voilà, c'est toujours pareil.
Eh ben, voilà. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous dans cette émission. Oh là là, mais il y a une arrivée, vous savez, il est midi 19 et Perico Légas vient de faire son entrée sur le plateau. Mais merci de nous honorer de votre présence, Perico. Vous savez que l'émission commence à midi, enfin, je veux dire.
Je m'en fous, j'avais un coup de flemme, j'ai pas très envie de venir. Donc, je suis allé faire un tour de trottinette avec Anne Hidalgo. Ah, j'ai préféré venir tout de suite.
Oh là.
Vous savez dans quel état est Paris?
Il a préparé.
Oui, je sais dans quel état est Paris, oui.
Ah, je me dis, Estelle midi, c'est quand même mieux que la mairie de Paris. Donc,
oui. D'accord, c'est gentil.
J'avais un coup de blues, voilà. Oui. Je me suis dit.
Donc l'éloge de la paresse.
Alors oui,
c'est
mais
dans le taxi, vous avez
moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est gratuit.
C'est-à-dire
pour rien, mais on ne vient pas payer.
Ah oui.
Voilà. Moi, je serais d'accord pour qu'on dise une loi. Vous avez le droit d'arrêter de travailler. Vous venez pas aujourd'hui.
Mais ça existe, c'est l'année sabbatique.
Oui, non, mais on n'est pas payé. Voilà. Oui, là, le problème, c'est que on
se. Là, c'est entre deux boulots. Elle parle aussi de ça.
Voilà. Ah, oui. On sous-entend. Est-ce que là, alors la paresse. Alors, vous savez, mon grand-père, qui était polytechnicien, qui a fait des grandes études, me disait, mon chéri, la paresse est un signe d'intelligence, mais à condition de savoir bien la gérer. Voilà. Ne pas avoir envie de travailler n'est pas forcément un défaut. Mais on est dans un système qui fait que malgré tout, on se construit par le travail. Donc la paresse, je comprends qu'on puisse avoir quelquefois des configurations professionnelles avec de la déprime, de la détresse. Ouais. Bon, mais ça a toujours existé. J'ai l'impression.
Je trouve que nos parents et nos grands-parents se plaignaient moins.
Alors, j'ai l'impression que les générations récentes sont plus fragiles, sont plus exposées à ces.
Non, elles expriment plus les choses.
Mais oui.
Disons que en 68, on leur a dit sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire. Ensuite, on a expliqué par la loi des 35 heures, dite une loi de gauche, que le travail, finalement, c'était pénible, c'était une punition. Donc, fallait réduire le travail. Au contraire des sociétés, souvent des sociétés ouvrières, en disant au contraire, on se construit, on se libère par le travail. Voilà. Et la paresse, il y a quelque chose de formidable dans la paresse. C'est de la dominer. Moi, je suis un paresseux, mais industriel, vous pouvez imaginer.
Ben, on l'a vu, là.
Bien sûr. Et puis, à un moment donné, j'arrive à me, voilà. L'une des sociétés qui réussissent, les civilisations qui réussissent, parce que je pense que la paresse, elle est naturelle, c'est celle qui devance, qui domine cette paresse et qui construit. Et un grand paresseux peut devenir un travailleur formidable.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver dans une société de la paresse, justement, parce que encore une fois, les générations
ont
changé. La valeur travail, comme vous le dites si bien, Thierry Moreau, elle est plus du tout aussi forte qu'il y a 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, c'est la valeur loisir qui a pris le pas.
C'est normal.
Alors j'entends bien que les loisirs, c'est pas la paresse.
La péréquation.
Il y a un peu plus d'oisiveté aujourd'hui
mais
qu'hier.
La péréquation entre l'accomplissement personnel et l'accomplissement au travail, qui est de plus en plus difficile parce que les salaires sont bas, parce que les conditions de travail sont difficiles.
Qu'ils étaient autrefois. Est-ce qu'on était très très bien payé autrefois?
Non,
est-ce que le prolétariat croulait?
Là où je suis d'accord avec toi.
Non, mais on avait moins de choses, moins de choix, moins d'envie, on consommait moins.
On gérait la frustration également, c'est-à-dire qu'on était capable de se dire, ça, j'ai pas les moyens de me l'acheter, alors que maintenant, on se l'achète et puis après, on est un peu ennuyé. Là où je rejoins Perico, et je trouve que c'est très juste ce qu'il a dit, les gens intelligents sont en général général des gens paresseux parce qu'ils font des stratégies d'évitement pour ne moins en faire. Mais à un moment, ils travaillent. Et souvent, ils travaillent souvent au dernier moment et souvent de manière extrêmement intensive, très forte et de manière intelligente. Mais aujourd'hui, dire qu'on érige la valeur paresse comme étant une valeur qui transcende les nouvelles générations, je pense que c'est faux.
Non, c'est
les
vrai.
Gens, ils veulent travailler.
C'est une forme de révolution
anticapitaliste. Non, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai.
Mais non,
il y a de la pénurie de main-d'œuvre que dans les boulots difficiles, arrêtez.
Mais parce que
il
n'y
a pas de pénurie chez les cadres.
Mais parce que les gens ne sont pas assez payés. Excusez-moi, aujourd'hui, 80% des premières grilles de salaire dans toutes les branches, elles sont en dessous du SMIC.
Ok, là, on vient d'avoir un auditeur qui nous disait quoi qui était chef d'entreprise dans une petite ville, qu'il a mis une annonce. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit qu'il avait
reçu que des gens qui voulaient un salaire plus haut, tel ou tel jour de congé, choisir leurs horaires, etc.
Aujourd'hui, on est dans une pénurie de main-d'œuvre qui fait qu'aujourd'hui, le balancier, il est plutôt du côté des salariés qui peut négocier son entrée dans le monde du travail plutôt que le patron qui donne.
Mais peut-être qu'il y a 10 ans, les gens qui sont
contents,
ils ont accepté tout de suite.
Rien qu'un exemple. Vous avez vu le délai qu'il y a aujourd'hui entre chaque autobus sur les lignes de bus parisiennes.
Ce qui explique certains retards.
Je ne prends pas le bus et j'adore l'autobus, mais pas pour venir ici. Alors, il y a des lignes plus difficiles que d'autres, plus exposées, je comprends.
Mais on en parlera à 13h.
Voilà. Mais il y a des lignes qui sont tout à fait confortables, je pense, de là. Je prends souvent la 39 ou l'autre.
Oui, bon.
Là, c'est 18, 20, 21, 22, 23 minutes.
Ah, mais...
J'appelle.
Il n'y a plus de conducteur de bus.
J'appelle.
Parce que c'est un métier difficile.
Et il me dit mettre le conducteur de bus parisien qui est quand même. Ça gagne pas une fortune.
Il fait pas 35 heures en plus. Hein.
Mais d'accord. Et ils en sont. Non, ils veulent rentrer de bonne heure le soir. Ils veulent plus travailler le week-end. Donc ça c'est la consécration. Ça s'appelle la paresse. On peut prendre tous les mots prudents pour éviter. Ça s'appelle de la paresse institutionnelle qui est devenue une. C'est une paresse.
Non, vouloir rentrer plutôt chez soi et avoir ses week-ends. Non, c'est pas de la paresse.
Qualité de vie quand même.
Non, les gens, si tu leur demandes, est-ce que vous préférez rentrer tard chez vous ou à une heure décente, ils vont te répondre à une heure décente, sauf si ils ne veulent plus voir leur conjoint.
Mais de quoi on parle tous ces métiers-là ont des compensations énormes.
Énormes quand t'as une heure de bus. Non, ça va pas.
En les horaires, c'est compensé, mais beaucoup plus.
Énorme. C'est pas des métiers où tu roules sur l'or.
Non, je parle pas de rouler sur l'or. Je dis quand on fait des heures supplémentaires, elles sont compensées, elles sont payées.
D'accord.
Ça fait partie de la fonction, mais à ce moment-là. Attendez. Alors, les gens autrefois qui faisaient le métier correctement, c'était des cons. C'était quoi? Je voudrais qu'on me dise qui étaient ces gens. Qui faisaient leur boulot avec dévotion, avec rigueur, avec conscience professionnelle.
Oui.
Voilà, qui le comptaient. C'était quoi? Des abrutis, des cons, des sales. Je comprends pas.
Mais aussi.
Aujourd'hui, la paresse, c'est un système idéologique qui s'est installé et qui est devenu une revendication.
Si,
c'est une forme de. Non, c'est une forme d'expression.
Rémi, vous avez des messages?
Oui, ce message de Raphaël, notamment sur Direct Studio, qui nous dit le droit à la paresse, pas de problème. Je pense que tout le monde peut y avoir droit. À condition, nous dit-il, de rendre ou de ne pas bénéficier de toutes les aides que les gens peuvent bénéficier, à condition de refuser les aides de la Sécu également, à condition de ne pas profiter du travail des
autres.
On va terminer ce sujet avec Arnaud, qui nous appelle de Millau dans l'Aveyron. Bonjour Arnaud.
Bonjour, merci de passer en direct. Bonjour.
De rien, ce petit accent, ça fait plaisir là. ça sent le week-end, j'adore.
Bientôt, oui, il arrive.
Exactement. Arnaud, vous êtes du genre à paresser ou au contraire du genre à beaucoup bosser?
Alors, je vous expliquais, moi, je vais avoir 40 ans en décembre, là, j'ai bientôt 40 ans. Je travaille depuis l'âge de 17 ans.
Ouais.
Ça fait plus de 20 ans que je suis dans une usine. Donc, travail d'usine, aujourd'hui, je suis chef d'équipe, mais travail d'usine, ça veut dire pression du temps, pression de tout. De tout. Là, j'ai envie de changer un petit peu de travail. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la même entreprise. Je vais prendre le temps. Avant de rebondir sur un autre travail, j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi. C'est-à-dire que je vais mettre les choses à plat.
Mais je comprends.
Prendre peut-être un mois ou deux. Et après, faire quelque chose qui me plaît vraiment. C'est-à-dire que me lever le matin, aller travailler et être content d'aller travailler. Faire quelque chose qui me plaît vraiment. Pour ça, il faut mettre les choses à plat et prendre le temps qu'il faut. Quand j'entends prendre une année sabbatique, je veux bien, je suis père de famille, j'ai deux enfants. C'est tout simplement impossible, on ne peut pas, il n'y a pas de revenu qui rentre.
Eh oui.
J'ai jamais été au chômage, j'ai toujours travaillé. Je pense que oui, au bout d'un moment, il faut surtout quand j'arrive à la moitié de ma carrière professionnelle, j'ai envie de voir autre chose et prendre le temps de faire les recherches.
Et vous avez cotisé pendant 23 ans. Et je suis désolée.
C'est la parfaite illustration de ce qu'on disait.
Il a quand même le droit de prendre 3 mois pour lui.
Ça dépend sur quel registre.
Il a cotisé 23 ans.
C'est la parfaite illustration de ce qu'on a dit.
Il
a cotisé, il prend du temps pour son avenir professionnel. Ça s'appelle faire un bilan de compétences en quelque sorte et choisir une nouvelle voie professionnelle. Moi, ça ne me choque pas.
Mais alors, attention, est-ce qu'il passe par le chômage?
chômage ou est-ce qu'il passe justement parce qu'il a cotisé en termes de formation?
Si alors, on va lui demander. Arnaud, vous allez bénéficier du chômage. Bah, on va poser la question. Arnaud, vous allez bénéficier du chômage pour prendre du temps pour vous?
Ou de la formation?
J'ai jamais été au chômage. J'ai fait une VAE.
Valorisation des acquis d'expérience.
Valorisation des acquis
et de l'expérience. Voilà, ouais. Donc, si vous voulez, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Donc, moi, le seul truc qu'on m'a proposé, c'est de partir à 4h30 de route de chez moi pour obtenir un bac plus 2 en étant avec des collégiens de 4e et en dormant à l'internat. Oui, bien sûr, tout était payé. Hein. Bien sûr, tout était payé, hein, pas de problème. Mais non, je ne me vois pas laisser mes enfants, ma famille, puis aller avec des enfants de 14 ans. Non, ça m'a servi à rien du tout. À rien du tout.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Arnaud d'avoir été avec nous sur RMC. Alors on voit que c'est un peu tendu sur le plateau ce dossier. On va voir ce qui se passe du côté de nos internautes. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'on a le droit à la paresse ou pas, Rémi?
C'est non. C'est non à 73% de ceux qui ont eu l'énergie de voter sur les réseaux sociaux.
Ceux qui se sont levés, quoi. Oui. Pas comme Perico, les gars. Dans un instant. Et tiens, mais j'attends votre avis sur ce sujet.
Ça va durer jusqu'à la fin de l'émission, là.
Oui,
le bombardement.
Et même lundi, on se posera cette question. Tiens, est-ce qu'on a le droit de dire du mal des morts? On se pose cette question parce que Gérard Darmon n'a pas été très sympa, mais enfin, voilà, Gérard Darmon, il mâche jamais ses mots, etc. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Il n'a pas été très sympa le jour du décès de Jean-Luc Godard. Est-ce qu'on a le droit de dire du mal des morts? On vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, la radio RMC Story, canal 23 de la TNT avec Rémi Barré et Perico Légas qui nous fait l'honneur de sa présence. Il est arrivé à midi 19, mais enfin, il est arrivé.
Ça pourrait ne pas durer.
Et on a également le bonheur d'avoir Thierry Moreau et Julien Damon. Et puis vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à notre débat maintenant. On va s'intéresser au franc-parler du jour, celui de Gérard Darmon, l'acteur qui n'a jamais mâché ses mots, a jeté un petit froid dans l'émission C'est à vous, en revenant sur le décès du réalisateur Jean-Luc Godard. Écoutez.
Comme qu'il était, qui n'a pas été très, très bienveillant pour ma communauté, pour les Juifs en général et pour Israël en particulier. Et je trouve que les propos qu'il a tenus étaient absolument inadmissibles. C'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du révisionnisme. Et je pense que j'ai été plus touché par la disparition de la reine Elisabeth que par Jean-Luc Godard, pardonnez-moi, mais je ne peux pas admirer quelqu'un qui est à ce point-là les Juifs, c'est pas possible.
Alors ces propos, Rémi Barré, ont un peu étonné car c'est quand même assez peu courant d'entendre une personnalité dire du mal d'un mort.
Oui, exactement, et légalement en France d'ailleurs, ce n'est pas autorisé en tout cas.
Ah bon ?
Ben non, c'est très encadré. L'atteinte à la mémoire des morts consistant à injurier ou à diffamer.
Alors je dis pas. C'est pas ce qu'il a fait. Hein.
Non, je ne dis pas ce qui est fait. Mais après, c'est à la justice d'en décider et à la famille défunt de l'estimer et de porter plainte. En tout cas, l'injure, donc l'atteinte à la mémoire des morts, le plus souvent par voie de presse d'une personne décédée, constitue un délit en France qui peut être sanctionné, mais je l'ai dit, dans des conditions très restrictives par les textes réglementant la liberté d'expression ou à défaut par ceux régissant la responsabilité civile. Conditions restrictives car les proches de la personne décédée qui estiment que sa mémoire est bafouée ont 3 mois et pas un jour de plus pour saisir la justice. Et dans les faits, il est extrêmement compliqué de se défendre en cas de diffamation envers un proche défunt. Le respect de la mémoire des morts s'efface bien souvent derrière les impératifs de protection de la liberté de la presse ou d'expression, dans la plupart des affaires jugées, d'ailleurs, pour ce fait. Seul le droit de réponse permet à la famille de réhabiliter la mémoire du défunt sans pouvoir interdire la publication ni être indemnisé pour le préjudice subi. C'est-à-dire que si la famille de Jean-Luc Godard, là, par exemple, estimait qu'il a été diffamé, elle pourrait exiger un droit de réponse, encore faudrait-il qu'elle l'obtienne.
Perico Légas, est-ce qu'on peut dire du mal des morts?
Oui, j'ai été formé professionnellement par un journaliste appelé Jean-François Kahn, j'ai dit à Marianne, qui nous a toujours dit, c'est un devoir de critique du mort. On dit tout.
On a un petit délai quand même, non?
L'actualité, c'est quand une personnalité meurt, on décommande tout de suite qui il était. Et on dit tout. Et selon la phrase du Figaro, il n'est point d'éloge flatteur sans la liberté de blâmer. Justement, pour dire de quelqu'un qu'il a fait des choses formidables, eh ben, c'est valorisé par le fait qu'on puisse dire, mais il a eu aussi, à un moment donné, des défaillances, un problème, il a fait une erreur pour le voilà. Et même des gens qu'on adule, ça les grandit quand on dit attention. le général de Gaulle, il a eu des failles. Churchill, que je vénère.
Oui, enfin, le jour où le général de Gaulle est mort, ça m'étonnerait qu'on l'ait critiqué.
C'est,
vous
mais
voyez.
Ça aurait été impossible. Aujourd'hui, le
c'est
général.
C'est ce que je vous dis.
Aujourd'hui, le général de Gaulle mourrait.
Oui.
Je dirais, c'est un grand homme qui a sauvé la France. C'est un exemple de valeur politique exceptionnelle. Mais ce qu'il a fait au Harki, c'est inadmissible de le laisser massacrer. Voilà. Ça, c'est une lacune épouvantable.
Enfin, vous êtes d'accord que quand quelqu'un meurt, il s'est encensé.
On dit tout.
C'est très rare d'entendre ce que vient de dire Gérard Darmon.
Souvenez-vous ce que j'ai dit sur Bernard Tapie quand il est mort et qu'on avait envisagé de donner le nom du stade Vélodrome de Marseille, de lui donner. J'avais dit, malgré la fascination que j'avais pour, et la sympathie que j'avais pour le personnage Bernard Tapie, pour moi, c'était quand même quelqu'un qui avait une vie un petit peu de voyou, un petit peu d'escroc. On donne pas le nom d'un escroc à un stade de foot qui symbolise la jeunesse.
Bah, ça m'a choqué parce que justement.
Mais c'est très bien.
Mais c'est pas pour vos propos, c'est le fait que je suis pas habituée.
N'empêche que je disais la vérité. Je n'ai pas dénigré le personnage. Ça n'a pas été. Je racontais une réalité. Et le débat était est-ce qu'on donne. Le débat est-ce qu'on donne le nom d'un stade de football à quelqu'un qui a été aussi controversé et qui a eu des problèmes avec la justice. Ben non, et on a le droit de le dire tout en disant
que Tapie est un. Et j'ai dit.
Et j'avais dit que Tapie. Ah ben non, à ce moment-là, on met pas le thème. Non, alors Estelle, on met pas le thème sur. Alors on met pas le thème sur la table. Parce que si on doit s'interdire de dire la vérité, à ce moment-là, on débat pas.
Mais,
or,
non,
nous
mais,
sommes dans, le, dans les médias où nous décryptons l'actualité, nous mais disons voilà. Tout. Voilà.
Non, mais on confond deux choses. Ah, on confond le téléspectateur, l'auditeur, le lecteur, qui lui, il a envie, parce qu'il aimait cette personne, ne voir et ne retenir que les bons côtés d'une personnalité. Mais le travail du journaliste, et je plus sois tout ce que vient de dire Perico, c'est de montrer, d'écrire des portraits qui soient complexes, qui soient fouillés, qui soient en nuance pour montrer les failles d'un personnage. Moi, je vais vous donner un exemple très simple.
Allez-y.
Claude François, quand il est décédé, ça a été un monument national.
L'encensement.
Claude François, c'était quelqu'un qui avait des tendances pédophiles. Il est sorti avec des gamines de 13 ans.
J'ai jamais entendu ça, pardon.
C'est une histoire tout à fait publique.
Parce qu'on s'est interdisé.
Justement, vous l'avez pas. Elle s'appelait Fabienne. Voilà. Elle avait 13 ans quand il est sorti avec elle. Elle a accouché à 15 ans d'une petite Julie au moment de la mort de Claude François. Cette petite gamine de 2 mois, elle était née d'une maman de 15 ans. Et il a toujours dit dans les interviews, au-delà de 17 ans, ça ne m'intéresse plus.
D'accord, mais vous ne l'avez pas dit le jour où il est mort?
Parce que j'étais un peu jeune à ce moment-là.
Oui, non, mais d'accord. Évidemment, c'est pratique de.
Non, mais donc, ce que dit Perico est tout à fait juste. Il y a d'un côté les gens, l'émotion des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs, de tout ce que vous voulez. Et puis, il y a le travail du journaliste qui doit être de donner des portraits complexes, mesurés.
Thierry Moreau, vous avez été patron d'un hebdomadaire télé.
Oui.
D'accord. Vous avez vu des stars de la télé qui mouraient.
Oui.
J'imagine que le jour où elle meurt, ou deux jours après, vous êtes encore. Personne ne dit du mal, vous voyez ce que je veux dire?
Mais pourquoi pas?
Et pourquoi pas?
Bah, vous l'avez fait?
Alors. Non,
bon,
parce que.
Voilà.
Puis attendez, il n'y a pas que des stars de la télé qui meurent. Par exemple, ce délai de décence qu'on évoquait, ça marche pour Hitler ou pour Pol Pot?
Non,
évidemment.
Quel rapport?
Évidemment, bien sûr que non.
Point Godwin.
Eh bien, il y a un point à dire.
Il y a un seuil, d'horreur.
Là, c'est pas
beaucoup plus simple. Mais pourquoi il y a des ordures.
Personne n'a dit du bien, vous voyez.
Mais Darmon en a parlé, il a dit.
Staline, vous aviez les premières de couverture, les premières pages de grands quotidiens qui ont dit « Ah, c'est la fin du monde, etc. Le petit peuple des peuples est parti, etc. » Certes, il faut être mesuré, mais il y a des ordures.
Le jour de la mort de Jacques Chirac, par exemple, dire que le deuxième mandat de Jacques Chirac a été un mandat sur lequel il n'a pas fait grand-chose, que ça n'a pas été un très bon président.
Il y a des gens
qui ont dit ça sur les plateaux, et ils ont eu raison.
Moi, je suis rentré tout de suite dans Jacques Chirac en disant que ça avait été un ministre de l'Agriculture, contrairement à ce que l'Aurore... Catastrophique. Et je l'ai dit, ça paraît par ailleurs être un président exceptionnel à l'ONU quand il a refusé d'aller en Irak. Grandiose, c'était gaulien, et il a eu des attitudes là. Sur la reine d'Angleterre, je réécoute. Oui. Le dégoulinement, le tsunami de superlatifs, des loges,
des trucs qu'elle a pas
je parle d'elle, des trucs qu'elle a pas fait. Alors je parle pas d'elle, je parle de sa fonction. Mais même elle a rien fait qui justifie que voilà, elle a régné 70 ans sans rien faire, sans rien dire, sans bouger. Elle a jamais pris une position. Elle n'a jamais pu une attitude, elle n'a jamais eu un mot. Elle avait son droit et d'ailleurs la Constitution anglaise l'interdit. Enfin, c'est pas la divinité que l'on nous présente qui a maintenu le monde au bout de ses bras. Oui, elle est entre Winston Churchill, Clémenceau et De Gaulle. Là, Mémé, elle était là, elle était tranquille dans son palais. Bon, elle a eu des problèmes de famille. Alors, je sais pas comment elle a élevé les gosses, mais enfin, c'est plutôt foireux. Voilà. Final. Enfin, on va pas. Et je vénère sa gracieuse majesté qui a été. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. J'ai vécu avec elle et effectivement.
Ah bon,
je
savais pas.
Je la vois partir. Je me dis que je vais pas partir dans très longtemps. Vous voyez, c'est toute une époque qui tourne sa page. Enfin, elle aurait pu dire un mot sur le Brexit, en bien ou en mal, sur l'indépendance de l'Écosse, sur rien. Ah si. Il y a la prérogative royale. Elle a décidé de pas le faire, mais de là à ce que j'entends, dans nos confrères et des amis journalistes qui pendant des semaines et des jours nous ont expliqué qu'elle avait maintenu le monde à elle toute seule, alors qu'elle faisait éventuellement de temps en temps des petits cookies dans la cuisine et puis à Balmoral, elle promenait les chiens. Enfin voilà, stop quoi. Presse française, reprend tes esprits. Voilà, et comme Gorbatchev qui est un type exceptionnel, qui est un voilà. Et alors on a dit
de ton point de vue.
On aurait pu. Non, mais bien sûr de mon point de vue. Il a aussi
eu des failles.
Non, mais je vous dis, on doit dire des morts ce qu'ils sont.
Saint-Johnny.
On doit dire des morts ce qu'ils sont, d'accord, décemment, de façon cohérente et respectueuse. Bon. Mais s'il y a une faille, ou alors on ne parle pas d'eux. Bon. Mais si c'est parle pas d'eux pour cirer les
bottes. On
va
parler moins longuement également.
Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les mentalités ont quand même évolué. Et on dit souvent, aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. Il n'empêche, tout à l'heure, vous parliez de De Gaulle, personne n'a critiqué la mort de De Gaulle lorsqu'il est décédé. Bah si. Le journal Harakiri avait titré. Bah oui, mais attendez, mais ça avait été loin à l'époque.
Balle tragique à Colombey, c'est clair.
Balle tragique à Colombey, un mort. Parce qu'il y avait eu un incendie dans un bal populaire, il y avait eu des morts. Et le journal à l'époque avait été interdit.
Donc c'était toujours mieux avant.
Mais aujourd'hui, Charlie Hebdo sur les papes, à chaque fois qu'il y a un pape qui meurt, Charlie Hebdo fait des unes qui sont.
En plus, c'était pas une critique de De Gaulle.
Méchanceté terrible.
C'est pour ça qu'on aime Charlie Hebdo aussi, parce qu'ils sont irrévérencieux. Ils sont irrévérencieux parce qu'ils ne font pas comme tout le monde. C'est ça l'irrévérence. Et donc, ça veut bien dire que tout le monde en sens et que justement Charlie Hebdo est là pour mettre un.
Je vous signale que cette pudeur, elle finit par la mort de journalistes, un jour de janvier 2015. La pudeur devient idéologique. On ne dit plus de mal de mort et on ne dit plus de mal de rien. On ne dit plus de mal d'une confession, d'une croyance, d'un prophète. Et à un moment donné, il y a des gens qui se prévalent de cette interdiction morale et qui vont et qui tuent en disant tu n'avais pas à faire ça.
Mais notre discussion est née de l'apologie de Saint-Guédard. Là, Monsieur Darmon a eu parfaitement raison de remettre un peu les mots à l'heure. On pourrait les remettre plus largement en sur Godard. Godard a fait des films. Alors moi, je suis pas un grand cinéaste. Hyper chiant.
Oui, j'ai dit.
Non, mais il l'a fait de façon. Il y a une polémique sur Godard. Il l'a fait, j'allais dire, de façon décente. Voilà, alors la famille peut dire.
Mais après, faire un par un. L'abbé Pierre, c'est la même chose.
En plus, Godard se privait pas.
Non, mais attendez,
l'abbé Pierre.
Vous avez ouvert la boîte de Pandore.
On va pas dire du mal de l'abbé Pierre. Non, mais
non.
Sur le révisionnisme aussi.
Bon, écoutez, je voudrais qu'on prenne Christophe, qui nous a appelé au 3216 et qui a des propos sensés. Bonjour, Christophe. Ah bah j'espère qu'il n'est pas décédé.
Venez Christophe, venez. Ça va bien se passer. Je le comprends.
On peut même pas en dire du mal.
Il est caché de reine d'Angleterre avec François. C'est pour ça.
Son téléphone est décédé. Bon, on ne peut pas en dire du mal parce qu'on ne le connaissait pas, Christophe, qui aurait dû être avec nous.
Suivant. Alors qui a après Christophe?
Eh ben non, mais on voulait vraiment prendre Christophe et il n'est pas là. Bon, qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi avant?
On disait, est-ce qu'on a le droit de dire du mal des morts? Il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Alors, il y a des salauds invétérés dont il faut tout de suite taper, sur lesquels il faut tout de suite taper. Les tyrans,
dictateur, c'est pas très compliqué de dire du mal.
Quand Poutine va mourir, à part moi qui dira que peut-être à un moment donné.
C'est irrévérencieux, c'est de dire du bien quand il va mourir. Voyez. Voilà. Ça, c'est irrévérencieux.
Oui, alors peut-on dire du bien? Alors, peut-on dire du bien à un salaud?
Oui, je pense que.
Peut-on dire du bien à un salaud? Voilà. En disant oui, mais il faut quand même voir qu'à un moment donné, il a peut-être pu.
Il a eu une enfance difficile.
Staline. Bon. Staline.
Et toi,
le plus grand monstre avec Hitler, sans Staline.
Taisez-vous.
Sans Staline, nous ne gagnions pas. L'Occident libre ne gagnait pas la guerre contre le nazisme. Alors, il l'a fait.
Apologie de Staline.
Ben oui, mais sans lui, les bottes allemandes auraient duré sur l'Europe pendant. Oui, voilà. Donc voilà, c'est le paradoxe.
D'accord. Donc on dit du mal de l'abbé Pierre, on fait l'apologie de Staline dans cette émission. Écoutez, c'est super.
On relativise.
C'est complexe. On relativise. Dit Pierrico, c'est complexe.
Je vous prie. Merci. Je sais encore voir le deuxième degré quand il est là.
On a retrouvé Christophe.
Non, on l'a pas retrouvé, mais en revanche, on a retrouvé notre sondage Twitter. On vous a posé la question. Peut-on mal parler des morts, Rémi Barré?
C'est oui, et un oui massif. À 82% de ceux qui se sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Non, mais c'est des gens, les RMC, ce sont des gens formidables.
Je suis assez d'accord avec vous. Allez, dans un instant, un garçon formidable, Anthony Morel, qui va nous parler des cinémas du futur. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir pour la dernière fois de la semaine, profitez-en bien, Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, on le sait, les cinémas sont en crise actuellement, mais heureusement que vous avez la solution. La solution, elle va venir certainement des cinémas du futur. À quoi vont-ils ressembler?
Ben oui, ils sont obligés de se réinventer. C'est entre Netflix, entre il y a l'augmentation des prix. On en a parlé hein, d'ailleurs dans l'émission, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire venir les gens dans les salles. Donc il faut forcément innover un petit peu. Alors il y a plein de choses qui sont arrivées d'ailleurs depuis quelques années. Alors ça va du Dolby Atmos à l'IMAX, qui vont, c'est des normes qui vont améliorer à la fois la qualité de l'image, le son, le rendre plus immersif. La 4DX aussi. Est-ce que vous avez tous testé le ciné en 4DX?
Oui. Non, c'est quoi?
Thierry, t'as dû essayer.
Non,
c'est le cinéma incroyable qui vous fait en fait ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran. Il y a plusieurs dizaines de salles en France. Ça peut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est incroyable.
Les films français.
Ah oui, alors c'est moins bien.
Ça bouge moins
bien, forcément. Je vous conseille plus sur un Marvel ou un truc comme ça. Vous voyez,
mais ça marche pour les films olé olé?
Ah bah alors c'est dans des cinémas spécialisés.
Il y a plus de salles.
Mais ça j'ai pas testé.
Le voyage en diligence, tu prends les cailloux.
Oui, bah alors c'est ça. En fait, le truc c'est vraiment impressionnant, c'est qu'en gros le siège bouge. S'il pleut dans le film, vous prenez de la flotte dans le visage. S'il y a des courses poursuites, ça bouge dans tous les sens. Vous prenez des chocs, des impacts, etc. C'est assez incroyable. Donc ça va quand même assez loin en termes d'immersion et forcément ça rajoute le côté on est complètement plongé dans l'aventure. Les écrans aussi qui sont en train de s'améliorer, c'est-à-dire qu'on est en train de remplacer les bons vieux vidéoprojecteurs par des écrans. Ah bah oui, mais si. Non mais le problème, si vous voulez, Estelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des télés dans nos salons qui sont mieux en termes de résolution que les écrans du cinéma. Bah oui. Donc forcément, donc là, il y a des systèmes comme Onyx, par exemple. C'est comme avoir une énorme télé en fait devant soi, et donc ça crée des
petits grains.
Alors c'est vrai. Bah oui, on perd un petit peu le charme, c'est vrai, mais on gagne en termes de qualité de contraste, qualité d'image. Forcément, c'est un petit peu mieux. Alors dernière chose pour l'immersion, ce qui est génial, c'est la réalité virtuelle. Alors ça, il y a des salles qui commencent à installer ça. Donc vous arrivez tous, vous installez, mettez le casque sur la tête, on regarde tous le même film, mais on va pas voir exactement la même chose parce qu'on tourne la tête à gauche, à droite. Là encore, en termes d'immersion. Regardez un film d'horreur, vous êtes poursuivi par des zombies, vous tournez la tête, il y a des zombies derrière vous. Pas mal quand même, voilà, pour avoir vraiment la trouille. Ah. Bah si, bon, c'est pas mal quand même pour être aussi.
Non, mais moi ça me tente pas. Non, j'aime pas ça. Moi je veux rester plan-plan sur mon siège en velours. Oui, c'est tout ce que je veux.
Non, mais
je
c'est sûr qu'en même temps, la réalité virtuelle, c'est pareil pour les films d'auteur français, ça fonctionne moins bien. Ah oui, alors ça, je suis d'accord. Alors ça, faudrait trouver une solution, mais moi c'est pareil, ça me rend plus
faire un film. Le truc, c'est qu'il y a eu le Covid quand même qui est passé par là, et on a plus envie de se retrouver agglutiné. Et justement, écoutez les gens qui mangent des pop-corn là juste à côté. L'enfant qui commande tout avec son père, c'est affreux.
Alors, pour le popcorn, je ne sais pas si je vais trouver la solution. En revanche, c'est vrai qu'il y a des concepts de cinéma intimistes qui sont en train d'arriver. Il y en a un qui est incroyable. C'est des architectes français qui l'ont mis au point. L'entreprise s'appelle OMA, O-M-A. Et en gros, c'est un cinéma où on oublie les rangées de sièges les uns derrière les autres, comme on le connaît aujourd'hui. On va remplacer ça par des sortes de petites capsules. Alors, pour ceux qui ont la référence, ça ressemble au Sénat
Galactique
dans Star Wars. On voit les nerds d'un côté de moi. Ça, c'est très, très clair parce que c'est vraiment exactement ça.
J'en ai pas la réponse.
Ben voilà, faut regarder Star Wars en même temps. C'est ça. Alors, donc, vous avez des petites alvéoles avec quelques sièges à l'intérieur. C'est configurable en fonction des besoins. Et donc, vous venez avec vos amis, votre famille. Vous pouvez privatiser une petite alvéole et vous regardez le film, voilà, entre vous. Donc, ça permet à la fois d'être dans une ambiance un petit peu plus intime.
Non, mais c'est comme le carré à la SNCF, ça. Mais si t'es tout seul.
Ah bah si t'es tout seul, oui, c'est
embêtant. Alors, avec des gens que tu connais pas dans une alvéole.
Le truc c'est que c'est complètement configurable. Donc le cinéma, il peut avoir quelques rangées pour les gens qui sont tout seuls, et puis les petites alvéoles, un peu comme des loges à l'opéra, si vous voulez. C'est un peu ça, c'est un peu le même principe finalement. Je trouve ça très malin et franchement c'est hyper esthétique en plus. OMA, OMA.
Alors il y a aussi un nouveau concept qui est génial. Je l'ai testé la semaine dernière.
C'est pas vrai.
Extraordinaire.
Je savais pas.
C'est incroyable. C'est génial, le cinéma hôtel. Oh,
le cinéma hôtel. Alors ça c'est un concept qui a été lancé par grande chaîne de cinéma. Ça s'appelle Hôtel Paradiso et c'est le concept est très très malin. En gros, alors c'est un hôtel déjà qui est basé sur le thème du cinéma. C'est vraiment il y a des affiches partout. Si vous voulez appeler au service, c'est 007, faut composer.
C'est ça.
Et en fait
avec
après
un téléphone,
téléphone. Et alors vous appuyez sur un bouton, les stores se baissent, vous avez un écran géant dans la chambre et vous avez une sélection de films absolument incroyable. Il y a même des suites avec des sièges exactement comme au cinéma, donc vous pouvez venir avec des copains. C'est sympa pour soirée romantique, voilà,
c'est
un
génial.
Petit truc. C'est vraiment le concept
c'est
très
génial.
Malin. Alors les prix évidemment, c'est un peu plus cher qu'une chambre. Alors enfin quoi que je crois que c'est une centaine d'euros pour une chambre et autour de 350 pour une suite. Donc pour un hôtel parisien, on va dire, c'est des prix qui sont c'est à Paris. Et on peut imaginer évidemment en ouvrir absolument partout en France, parce que le concept est intéressant. Et c'est encore une fois un moyen pour les salles de cinéma, on va dire, de se réinventer, de générer de la valeur ajoutée et d'attirer le public qui effectivement, à l'heure de Netflix, est plus forcément tenté par le fait de sortir.
Eh ben merci beaucoup Anthony Morel, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans Estelle Midi tous les jours, midi 50. Dans un instant, on parle de l'augmentation du jour, c'est celle de des violences dans les transports en commun, plus 4% par rapport à 2020. Est-ce que vous avez peur désormais lorsque vous prenez le métro, le bus ou le tram? On attend vos témoignages au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.